Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, notre déficit public est abyssal et en plus la CGT propose de faire des grèves pendant les JO. Mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Alors exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés comme d'habitude pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur l'économie, la finance, les placements, votre argent. Exceptionnel aussi parce que, vous le savez, c'est la journée des droits de la femme et nous avons un plateau entièrement féminin. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est plutôt deux noms, Trump et Biden. La question macro, pourquoi ? J'y vais direct. La gestion de notre finance publique est-elle aussi catastrophique ? Et je vais vous dire, vous allez vous en apercevoir que ça m'énerve beaucoup. Les chiffres de la semaine, on voulait en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. C'est la démographie, les 800 000 personnes en moins au Japon, 0,72. Le taux de fécondité record en Corée du Sud. En deuxième partie de l'émission, le CAC à 8 000, stop ou encore. La question d'argent, or ou bitcoin, quel placement cette semaine? Bien évidemment, le top ou le flop de la semaine, vous connaissez maintenant, c'est un événement, une personnalité ou une institution qui a fait l'actualité. Moi, mon flop de l'année, c'est la BCE, je vous le dis tout de suite. Et je vise personne, parce que je veux pas qu'elle se sente visée, qui a fait de l'actualité de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour cette émission exceptionnelle, Journée des droits de la femme, il fallait des invités et eux exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Il n'y a pas de féminin pour Jedi. C'est une spécialiste des bulles économiques et des bulles de BD. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marc.
Nathalie Benatia, vous êtes senior économiste BNP AM et on ne va pas déroger à la tradition qui veut qu'à chaque fois que vous veniez, je vous demande une recommandation de BD que je lis à chaque fois que vous la proposez.
Eh bien, aujourd'hui, c'est un manga. Donc, il y a déjà 13 tomes publiés aux éditions du Lézard Noir. Ça s'appelle La cantine de minuit de Yaro Abe. Et ça se passe dans un tout petit restaurant dans le quartier animé la nuit de Tokyo. Et donc, on voit défiler les clients. Et ce restaurateur peut vous préparer le plat que vous souhaitez, à condition d'avoir les ingrédients. Donc, on a les souvenirs culinaires. On a la vie des gens qui passent dans ce restaurant.
Donc, les 13 albums sont là-dessus ou c'est celui-là le...
Non, c'est une série.
Comme souvent,
les mangas, c'est long. Mais ce sont des chroniques. Donc, on peut lire n'importe quel tome pratiquement indépendamment.
C'est bien noté. Il nous fallait aujourd'hui une femme responsable. Quand même si on en a moins besoin que quand j'ai un plateau où il y a Emmanuel Le Chip, Jean-Marc Daniel, enfin je vous explique pas, des gens qui sont incontrôlables. Une femme responsable qui soit investie en plus sur le sauvetage de notre planète, c'est Léa Dunant-Châtelet. Bonjour Léa.
Bonjour Marc, merci de l'invitation.
Contente de vous voir. Responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Elle a des convictions et des opinions tranchées et c'est ce qui nous plaît. Céline Picmal-Pratt, vous êtes présidente de Picmal Houghton Investment. Bonjour.
Bonjour Marc.
C'est la forme.
Oui.
Comment se porte Picmal Houghton Investment? Comment ça marche?
Eh bien, ça marche bien. Voilà. On tient notre cap.
Bon, tant mieux. Elle enseigne l'économie, l'applique au monde réel et en plus, elle a eu quand même la grande chance d'avoir Jean-Marc Daniel comme professeur. C'était bien, non?
Ah.
Ouais. Vous pouvez pas dire le contraire, de toute façon.
Pas vraiment, non. Mais
c'est inoubliable, un bon professeur.
Inoubliable.
Anna Souakri, vous êtes professeur vous-même maintenant? Affilié ESCP Business School et chercheur chez Square Management.
C'est ça.
Ça va, vous êtes en forme?
En grande forme, en rose, voilà, pour Journée de la Femme, qui est en fait tous les jours. Donc cette journée n'a pas raison d'être, en fait. Ah oui, non, mais c'est une journée...
Bon, alors dans ce cas-là, j'aurais pas dû faire un plateau 100% féminin, alors.
Non, mais bon, après, on pourra rediscuter des chiffres, comment on mesure les inégalités, tout ça, quels doivent être les objectifs.
Ah, vous voulez faire une autre émission, en fait, qui n'a rien à voir avec l'émission que j'avais prévue. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est deux noms, Biden, Trump. Ça sera un rematch. Alors j'ai appris que c'était le premier rematch depuis 1956. Il n'y en avait pas eu avant et j'avoue que je n'étais pas au courant. Nos deux vétérans de la politique ont largement remporté Super Tuesday. Alors Biden ou Trump, Anna Souakri, qu'est-ce que ça va changer pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale?
Tout dépend en fait de qui va être élu, effectivement, et ça va être surtout un grand changement. Bon, les marchés s'y préparent déjà, les investisseurs, les entreprises. Si effectivement il y a un changement pour Trump, donc c'est si Trump est réélu, effectivement, et là les risques sur l'économie mondiale, en fait, c'est ça va être une fragmentation accélérée en fait des chaînes de valeur mondiales, donc des échanges. Voilà, au sein effectivement
du commerce mondial.
Du commerce mondial, moins de libre-échange, etc. Beaucoup plus de restrictions, ce qui fait que ça va nuire effectivement à la croissance mondiale en général et particulièrement des pays qui échangent avec les États-Unis le plus directement, donc notamment effectivement toute la zone d'Amérique latine, le Canada, bien sûr l'Union européenne, et ça va avoir également des répercussions sur la croissance potentielle future que pourront avoir les États-Unis, notamment si Trump décide effectivement d'arrêter tous les investissements pour la transition, pour financer la transition, mais également les soutiens à l'innovation dans le numérique, qui est quand même très importante aux États-Unis et qui soutient la productivité. Là, pour le coup, ça va amoindrir la croissance potentielle des États-Unis. Rappelons que déjà, le FMI prévoit qu'il va y avoir un net ralentissement de la croissance effective et qu'on va passer, on était à 2,5 en 2023, ce qui était extraordinaire, et que ça passerait à 1,7 en 2025. Donc déjà, alors avec un effet Trump, il y aurait un ralentissement.
Mais on ne l'a pas vu cet effet Trump pourtant pendant les 4 années. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on agite un peu le chiffon rouge, mais...
Il y avait également des circonstances conjoncturelles sur lesquelles il a pu surfer. Mais au-delà de ça, là, par rapport à son discours maintenant, c'est son discours, mais en tout cas, c'est vraiment arrêter tout ce qui est le libre-échange, durcir, fragmentation des chaînes de valeur mondiales, America First, etc.
Nathalie Benatia, Trump, ça serait vraiment un changement pour l'économie mondiale?
Moi, je suis d'accord avec vous. Si Trump 2024, ça ressemblera sans doute à Trump 2016, peut-être en pire, ou peut-être parce qu'on est habitué, on va davantage surveiller. Honnêtement, sur le plan du commerce international, alors on a des déclarations, bien sûr, des déclarations d'intention très, très sévères. Est-ce que, par exemple, vis-à-vis de la Chine, ce sera vraiment différent de Biden? Les États-Unis et la Chine, c'est un combat, non pas millénaire, mais c'est un combat depuis plusieurs décennies maintenant. Et finalement, l'administration démocrate prend le même genre de mesures. Elle les prend peut-être d'une façon un peu plus polissée, mais in fine, on a à peu près les mêmes résultats.
Surtout qu'on l'oublie, mais la tradition de protectionnisme, elle est plus démocrate que républicaine. C'est-à-dire qu'on a toujours eu beaucoup plus de protectionnisme avec des présidences démocrates qu'avec des présidences républicaines.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, effectivement, je pense que vous devez être particulièrement concerné, c'est la question, est-ce que les États-Unis vont continuer à financer l'énergie propre? Là, les conseillers de Trump disent non, ça ne nous intéresse pas. Non, les voitures électriques, ça coûte trop cher, donc on va arrêter de subventionner.
Ça vous inspire quoi, ça, d'ailleurs?
Le principal problème, effectivement, c'est cette remise en question du plan IRA, toute la partie d'électrification qui est bien amorcée par les entreprises en plus. Donc, ça serait un vrai choc, je pense, dans les investissements qui ont été faits d'ores et déjà. Plus, effectivement, toute la chaîne des énergies renouvelables qui est quand même extrêmement challengée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, premièrement, qu'on va avoir une année volatile. On l'avait déjà et ça va se poursuivre. Je pense aussi à la santé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur la partie santé où, à nouveau, ils remettent sur la table, comme d'habitude, les sujets de remboursement. Donc Trump, ça sera un retour en arrière sur les sujets d'écologie et de climat.
Mais est-ce que ça sera forcément mauvais pour l'économie? C'est ça la question.
Alors ça, c'est une bonne...
Parce que c'est peut-être très mauvais pour la planète.
Pour la planète, absolument. Voilà. Donc, à minima,
ce sera... Et donc très mauvais pour l'économie à moyen terme. Ouais. Mais à court terme, si on arrête d'investir finalement dans des choses qui ne sont pas forcément tout de suite rentables...
Non, je ne pense pas que ce sera une mauvaise chose. Et pour terminer, peut-être là-dessus, quand même, les États américains sont très indépendants quand même dans leurs décisions sur certaines choses. Donc la machine ne se cassera pas toute seule.
Céline?
Moi, je suis très négative.
Voilà. Parce qu'effectivement, comme il faut avoir un avis tranché, je pense que on pense.
Vous avez dit qu'elle 2016, avait des avis tranchés.
Mais qu'on pensait que c'était 2016, je pense que ça ne sera pas 2016. On n'est pas dans le même environnement. Notamment, le déficit américain est beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et s'ils disent qu'ils vont arrêter le financement des énergies renouvelables, ils vont quand même baisser les impôts. Baisser les impôts, ça veut dire qu'on va augmenter notre déficit. On est déjà à 6, on va passer 7, 8.
Oui, donc on a un risque sur l'obligataire. Ils dépensent moins d'argent.
Ils vont pas dépenser moins d'argent. Ils vont continuer à relancer la machine industrielle américaine. Donc du coup, on va avoir un déficit qui va se creuser. Et deuxième problématique, on n'en a pas parlé, mais il y a l'immigration. L'immigration, on ferme les frontières, c'est très joli.
Mais
l'immigration, c'est pas bon pour l'économie. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas ?
La dernière fois,
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu peur. Il y avait une réélection qui venait. Aujourd'hui, il n'y a pas de réélection à venir. Là, on peut être all-in. On peut faire ce qu'on veut. Et donc, du coup, quand on fait ce qu'on veut, c'est un peu risqué pour les investisseurs comme nous. Donc, à mon avis, il faut faire très attention. Et on a parlé tout à l'heure aussi de la problématique économique sur les tarifs douaniers. Mais les tarifs douaniers, si jamais ils les mettaient en place, ça va être une catastrophe pour la Chine quand même. Là, c'est une catastrophe pour la Chine. Et du coup, 20% de l'économie mondiale qui était déjà pas bien. Alors là, on va tous être impactés par Ricochet.
C'est sympa, vous nous redonnez
la pêche. Et c'est 11%, non mais c'est 11% des exportations américaines quand même, qui va 11% du PIB qui dépend de l'export. Donc si ça va pas bien, ils vont finir par eux aussi se le prendre en boomerang.
Anna,
donc,
je pense que c'est juste pas bon. un point, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie renouvelable et de l'impact que ça aurait sur la croissance. Moi, je suis aussi inquiet sur l'Europe, parce qu'il nous a dans le viseur, Trump. Et notamment, il a l'Allemagne dans le viseur et les exportations allemandes, et notamment notre solde commercial largement positif avec les États-Unis. Ça risque de nous frapper de plein fouet ?
Ah oui, bien sûr, mais ça risque de frapper d'autant plus que, en fait, ce que précisait Céline sur le déficit, effectivement, c'est par rapport à, si on regarde la position extérieure nette, c'est-à-dire l'endettement vis-à-vis du reste du monde, des États-Unis, c'est à 80% du PIB qui les achète majoritairement. Le Japon, l'Allemagne, la Chine, bien sûr. Voilà, tous ces pays-là qui cherchent effectivement des placements et des investissements productifs. Or, Trump, là, il a annoncé aussi que, il a alerté sur le fait qu'il fallait justement arrêter de faire en sorte que la Fed rachète des titres, etc. Donc là, ça risque de provoquer un moment Minsky sur les marchés, c'est-à-dire une panique.
Ouais, enfin,
et donc,
la panique lors de son élection, elle a duré quelques jours. Et tous ceux qui ont vendu en paniquant, en se disant ça va être
une catastrophe, s'ils changent les statuts de la Fed, etc., c'est...
On verra. La question macro de la semaine, allez, j'y vais franco là. Pourquoi la gestion de nos finances publiques, oui, ne m'appelez plus jamais France. Franchement, quand je vois le déficit public, c'est un moment où je suis pas très fier de nous. Alors, on n'est pas en Chine, on peut pas mentir sur les chiffres, et Bruno Le Maire a dû donc avouer cette semaine que notre déficit allait dépasser les 4,9% prévus en 2023. Dites-vous bien que 4,9% déjà, c'était catastrophique. Si on les dépasse, c'est encore plus catastrophique, parce que c'est un taux qui est supérieur à nos voisins. Même ceux qui étaient considérés, je vous rappelle, comme des canques, des mauvais élèves, la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Moi, j'ai pas d'autres mots. Je trouve que c'est un désastre et c'est même à la limite un scandale. Comment tout ça est possible? C'est-à-dire, comment on peut se retrouver dans ce cycle avec une dette, un déficit public qui est aussi dramatique et sans aucune mesure? Parce que l'annonce des 20 milliards, c'est une blague, quoi. 20 milliards, c'est un pourboire, quoi.
C'est moi qui dois répondre.
Oui, oui, oui.
Pourquoi ? Mazette.
Mais vous pouvez avoir votre opinion.
Oui, oui. Non, mais je... Alors, sans aucune... Enfin, qu'on nous laisse faire la façon de la Commission européenne d'aborder le problème a en fait changé. Le pacte de stabilité et de croissance a été mis entre parenthèses au moment du Covid, ça c'était normal. Et puis là, depuis le 1er janvier, normalement, il est réactivé. Avec une autre façon d'appréhender les éléments, pas forcément sur des ratios, mais également sur la trajectoire des dépenses. Donc le fait que Bruno Le Maire ait annoncé une baisse des dépenses, des efforts sur les dépenses, c'est plutôt bien vu normalement de la part de la Commission.
Mais ils ont quand même bien conscience que c'est une blague. C'est-à-dire qu'on fera pas, on sera pas 20 milliards, on aura 20 milliards de dépenses en plus. Et puis de l'autre côté, on va avoir 15 milliards ou 20 milliards de dépenses en moins et en plus. Et donc tout ça va se compenser. On voit bien que c'est une blague. C'est-à-dire, je peux pas croire à aucun moment que quand les Allemands entendent Bruno Le Maire, ils se disent, ils se foutent pas de notre gueule, quoi.
Alors, sera pas en net.
Les Allemands, les Hollandais, non, oui, ne sont pas contents. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette refonte du pacte de stabilité et de croissance, il y a déjà des mesures qui étaient voulues par la France et l'Italie, des assouplissements qui étaient voulus par la France et l'Italie, qui ont été refusés, qui ont été retoqués. Donc oui, ça risque effectivement. C'est de créer un potentiel problème de cohésion au sein de la zone euro. Après, le vrai problème, moi, c'est que la politique budgétaire, normalement, ça doit être contracyclique. Or, couper les dépenses, baisser les dépenses dans un moment où la croissance est quasiment atone, c'est pas normalement ce qu'on apprend qu'il faut faire dans les livres. Mais ça, c'est un problème qui remonte à bien plus longtemps. C'est que finalement, ces histoires de critères de Maastricht, entre guillemets, ont un peu cassé l'outil.
Je suis d'accord avec vous, Nathalie, mais le problème, c'est qu'on le fait pas en hautique. Si on le fait pas en bâtique, on le fait jamais. Donc on a toujours une excuse quand on est hautique. Bon, tout va bien, on le fait pas. Quand on est en bâtique, faut pas le faire. Donc il faut un moment qu'on. Comment c'est possible, Anna Souapé? Et la question que je me pose, c'est comment les autres pays européens acceptent ça, notamment l'Allemagne qui garantit notre dette.
Bon, alors déjà, effectivement, comme l'a dit Nathalie, le problème, c'est que depuis des années, hein, depuis 50 ans, hein, qu'on est en déficit, en déficit budgétaire tous les ans, c'est qu'il n'y a pas effectivement de gestion contracyclique. C'est-à-dire, oui, il faut augmenter les dépenses quand ça va mal, mais il faut aussi les réduire quand ça va bien, pour justement faire des coussins de sécurité, sécuriser des marges de manœuvre et éviter de se retrouver justement en ce qu'on appelle déficit primaire, c'est-à-dire le déficit lorsqu'on déduit la charge d'intérêt de la dette. Et en fait, par rapport aux nouvelles règles du pacte de stabilité, c'est pas tellement le déficit effectif, hein, le déficit global, hein, qui fait peur, si je puis dire, qui doit nous alarmer. Le problème, c'est celui du déficit primaire. Parce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas financer l'avenir, on ne peut pas financer les investissements qui vont être productifs, notamment la transition, l'éducation, etc. Enfin, en tout cas, des investissements qui vont permettre d'augmenter la croissance potentielle de l'économie. Et donc, c'est ça, en fait. Et les nouvelles règles du pacte de stabilité,
mais c'est pas que ça, je suis désolé.
Elles mettent des contraintes.
D'accord, mais le gouverneur de la Banque de France était sur BFM Business vendredi matin, même lui disait on a triplé la charge de la dette d'ici 2027, oui. Le poids de la dette, l'intérêt, et donc c'est autant d'argent qu'on ne va pas pouvoir consacrer à quoi que ce soit, à la transition énergétique, le social, à rien.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment un désastre, Léa.
Ah ben moi je ne sais même pas pourquoi on est surpris. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans, en gros, depuis Lehman Brothers, qu'on vit dans une économie où on a totalement oublié ce qu'était une vraie gestion budgétaire de l'État.
Et le quoi qu'il en coûte à outrance.
Voilà. Et là, on découvre, moi je ne comprends même pas qu'on le découvre. En fait,
Mais on ne le découvre pas, mais si vous voulez, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'on ne le découvre pas, mais là, on arrive au paroxysme. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de Covid. Bon, la guerre en Ukraine, ça y est, on l'a intégré. Le coût des matières premières a baissé. On ne peut plus rien inventer pour ne pas être dans les clous.
Non,
donc
absolument.
C'est ça qui m'étonne.
Non, et avec des dépenses en plus qui, dans la réalité économique, se traduisent pas véritablement. Que ce soit dans des grands projets de transition énergétique, d'une part, je pense à l'hydrogène, par exemple, dont on a beaucoup parlé, finalement, on n'a pas vu grand-chose, et c'est quand même un projet budgétaire même européen, il y a un plan en France, et même dans les services publics qui se détériorent.
Céline ?
Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on attend une baisse des taux d'intérêt. C'est ça que je comprends pas. Pour être honnête,
mais on va l'avoir.
Je comprends que qu'on se soit picousé à de la dette depuis 15 ans parce que forcément c'était gratuit.
Non, mais on l'a annoncé pour juin la baisse des taux.
Non. Ouais, non, mais les taux longs, ouais.
Bah les taux longs, ils baissent quand même.
Les taux longs, parce qu'en fait c'est un marché.
Oui. Non, mais les taux longs, on est quand même à 2,70 sur la France.
Ouais.
Vu notre.
Mais pourquoi est-ce qu'on descendrait à 2 ou à 1,5?
Ah non, mais personne ne dit ça.
Voilà. Non, mais on pense qu'on va revenir dans un environnement génial où les taux d'intérêt longs vont revenir plus bas et on va pouvoir ressouffler, re-respirer, être tranquille. Et malheureusement, moi je pense que tout ça, parce qu'on n'est pas tout seul. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Mais du coup, on va être en concurrence avec d'autres pays. Il y a 44% des pays de l'OCDE qui doivent refinancer leurs dettes au cours des trois prochaines années.
Pour l'instant, ça se passe très bien. On nous avait dit début d'année catastrophique.
Jusque-là, tout va bien. C'est comme dans la même.
Très bien.
Mais le plus dur, c'est la chute, c'est ça ?
Parce qu'il y a beaucoup de liquidités encore.
Il y a encore beaucoup de liquidités. Mais il y a un moment où on va tous arriver au même dans le goulet. Voilà, c'est un peu comme quand on veut sortir de la boîte de nuit et qu'il y a le feu. Au début, ça va. Et puis à un moment, on est tous sur la même porte. Voilà.
On sent la nightclub.
C'est ça. Mais donc, il faut faire attention.
Ça, c'est des références qu'on n'a jamais sur un plateau masculin. par exemple. Jamais. J'ai jamais entendu personne comparer l'économie à une boîte de nuit.
Voilà.
Mais bon.
Mais je me dis juste, il y a un moment, voilà, on va s'arrêter, on va dire, voilà, est-ce que vous êtes assis, etc. Et les taux d'intérêt, il va falloir faire très, très attention. Donc pour l'instant, on est quoi? On est à 2,7 sur le 10 ans en France.
Un peu au-dessus.
Et les liquidités, justement, elles commencent à s'assécher. Hein. La Fed et la BCE ont déjà commencé à retirer les liquidités. C'est-à-dire
mais on a des liquidités de pays qui sont excédentaires. Vous parliez tout à l'heure de balance des paiements. Des pays comme le Japon, des pays comme l'Allemagne ont énormément de pognon à investir. Et donc, ça crée de la liquidité. Je voudrais pas qu'on saute le troisième sujet parce qu'on l'a déjà sauté la semaine dernière et il m'intéresse. C'est le chiffre de la semaine. Deux chiffres qui m'ont vraiment totalement affolé. C'est dur d'être un bébé en ce moment. C'est mieux, plus facile d'être un chien en achat, surtout en France. 800 000, c'est le nombre d'habitants en moins au Japon en 2023, encore un record. Et alors le chiffre qui est totalement effarant pour ceux qui sont pas habitués à la démographie, pour avoir un taux de renouvellement de la population. Renouvellement, hein, juste de la population. Il faut avoir un taux de fécondité qui soit à peu près supérieur à 2,05, 2,06. Et le chiffre, j'avais jamais vu ça, personne n'avait vu ça, puisque c'est un record hors période de guerre, évidemment. Corée du Sud, 0,72, c'est le taux le plus bas. C'est-à-dire 0,72, dites-vous bien, c'est comme s'il n'y avait plus d'enfants. Donc on a de plus en plus de chats, de plus en plus de chiens, de moins en moins d'enfants et de plus en plus de seniors, puisque les anticipations sur 2050 nous donnent à peu près une dizaine de pays développés dont la population de plus de 65 ans dépassera les 40%. L'impact de la démographie avec allongement de la durée de la vie, réduction de la population et baisse des naissances, la mécanique économique, c'est quoi? Quand on vous donne ça comme cas économique, alors, vous dites, voilà, ça débouche sur quoi?
Alors, du point de vue de nos métiers de gestion pour compte de tiers, ça touche directement l'épargne, donc c'est très important, puisque le cycle de vie nous apprend qu'on épargne quand on est jeune, et puis quand on est vieux, on épargne moins, donc. Les fameuses liquidités, la fameuse épargne disponible devrait se réduire drastiquement. Donc c'est déjà un premier élément. Après, du point de vue économique, pour la croissance potentielle, on en a beaucoup parlé, l'expansion non pas de la population dans son ensemble, mais de la population en âge de travailler et de la population qui travaille, c'est un des deux facteurs qui explique la croissance potentielle avec la productivité. Donc oui, c'est aussi compliqué d'imaginer des sociétés vieillissantes et d'imaginer qu'on puisse continuer à avoir une croissance potentielle de 2% aux États-Unis.
Sauf si on a une explosion de la productivité avec l'IA, par exemple.
Il y a l'explosion de la productivité, il y a aussi, et par exemple la Chine est en train d'y penser, parce que la Chine a aussi un problème
évidemment,
de démographie.
2 millions d'habitants en moins en 2023.
Ils ont essayé
à l'échelle d'1,4 milliard pour l'instant.
De tripoter les facteurs démographiques avec la politique de l'enfant unique, c'est toujours une très mauvaise idée, hein, puisqu'on se retrouve longtemps après dans une situation difficile. Et donc le gouvernement chinois est en train de réfléchir à deux idées, de repousser l'âge du départ à la retraite. Alors la retraite, c'est pas comme nos systèmes chez nous, mais c'est 60 ans pour les hommes qui travaillent derrière un bureau, enfin hommes et 55 ans pour les femmes, et c'est 50 ans pour les gens qui travaillent en usine. Donc ils envisagent non seulement de repousser un petit peu cet âge de la retraite, et surtout en Chine et ailleurs, il y a une sorte de politique anti-vieux. Hein. En Chine, apparemment, au-delà de 35 ans, on est considéré comme vieux dans une entreprise. Chez nous, c'est pas encore le cas. Et donc, l'idée de revenir sur cet élément, parce que la courbe de la productivité de quelqu'un qui travaille, c'est ce qu'on appelle un U inversé, c'est-à-dire au début, c'est pas terrible, on monte en puissance, et puis l'idée, c'est que quand on est vieux, ça baisse, mais déjà, peut-être que ça baisse moins vite que ce qu'on imagine, etc. Donc voilà, il y a ces
pistes. Donc vous nous dites moins de croissance? Et mais vous nous dites peut-être moins de liquidité.
Alors, si on ne fait rien, moins de croissance.
Anna, l'impact de...
Alors, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas parce que déjà, le Japon a des ressources. Hein, on l'a vu par le passé, hein, de tout temps. Donc, voilà, ne pas...
Le Japon a des ressources, mais il a eu 30 ans de déflation.
Oui, oui, mais...
Et de croissance zéro. Donc,
justement, ils ont eu le temps d'en apprendre. Oui. En tout cas, le Japon, je pense, a des ressources. Alors, ensuite... Pourquoi ça m'inquiète pas tellement? Parce qu'il y a quand même des évolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seniors qui représentent 30% de la population au Japon, ils représentent à peu près 45% de la consommation. Ce qui est bien plus, effectivement, que traditionnellement, ce que tu as dit, Nathalie. D'habitude, on dit, oui, les seniors, ils consomment moins, donc moins de croissance, etc. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'on observe de plus en plus, et encore moins au Japon, comme j'ai dit, 45% de la consommation. Ensuite, il y a de plus en plus de seniors actifs, du fait des progrès de la santé, etc. Et surtout, la silver economy. La silver economy, c'est-à-dire les dépenses de R&D dans le PIB japonais, c'est à peu près 3,7. et grande majoritairement évidemment de la dépense privée qui est catalysée, si je puis dire, par des investissements publics. Donc il y a tout un pan de l'innovation qu'on appelle la silver, hein, silver economy, hein, silver du fait de
les cheveux gris, ça y est, on a compris, c'est pas la peine voilà. d'enfoncer là. Et ça va.
Non, mais ça donne du charme.
Non, mais ça va.
Mais c'est voilà, donc ça suscite, c'est qu'ils sont très productifs, donc productivité, croissance. Effectivement, ça leur permet d'engranger de l'épargne, hein, voilà. Beaucoup d'épargne qui vont placer dans les pays où là, il y a une démographie jeune et la population active, et ils en tirent les dividendes. Donc, pour le coup.
Donc, des pays de rentiers. Intéressant, bon, un point de vue qui me redonne un peu le moral. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour le CAC à 8000, la bourse top ou encore la question d'argent, or ou bitcoin, quel est le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. À tout de suite. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour cette émission exceptionnelle, Journée des droits de la femme, avec un plateau totalement féminin, avec Anna Souakri, avec Céline Picmal, avec Léa Dunant et avec Nathalie Benatia. Merci d'être avec nous. On a parlé natalité, on a parlé Trump, on a parlé de la gestion catastrophique de nos finances. Évidemment, c'était à la une de tous les journaux, de tous les médias. Le CAC à 8000, alors on va parler des marchés. Donc le CAC, voilà, vous le savez. Hein. Maintenant, si vous ne savez pas, si je ne sais pas sur quelle planète vous étiez depuis deux jours, le CAC a dépassé les 8000, le S&P depuis le début d'année en hausse de 8%, le Nasdaq 9%, l'Eurostock 10%, ça donne le vertige hein, quand même. Le Nikkei 18,3%, un pays de vieux qui a une bourse qui a plutôt pris du Viagra. Shanghai 1,8%, donc l'événement de la semaine, Céline, c'était évidemment le CAC au-dessus des 8000, les discours des banques centrales qui laissent présager. Déjà, ça y est, hein, il était temps qu'elle se bouge. On parle d'une baisse des taux maintenant. Ça semble être assez clair pour les États-Unis et pour l'Europe en juin. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Est-ce que c'est une exubérance rationnelle ou irrationnelle?
Alors, ce que ça m'inspire, c'est que, à mon sens, vu qu'on est un peu en période de ski aujourd'hui, je dirais que si je regarde mon risque avalanche, je pense qu'on est sur une échelle de 0 à 5, on est à 4.
Ah oui ?
Donc, si j'étais les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, je prendrais quand même mon avant et ma pelle. On ne sait jamais, ça peut aider. Voilà. Parce que aujourd'hui, j'ai plusieurs indicateurs qui m'inquiètent.
Allez-y, rapidement.
D'abord, la liquidité, on en parlait tout à l'heure. Mais effectivement, il y a les taux courts, mais il y a aussi les taux longs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les taux longs, ils restent quand même assez élevés. Okay. On est à 4,1 aux États-Unis, on est à 2,7 en France. Donc ça, c'est important. Et il y a un autre phénomène, mais sur l'équité, je voulais juste repartir un petit peu sur un phénomène qui s'appelait les reverse repo. Ouais. C'est-à-dire que les banques américaines pouvaient se refinancer auprès de la Fed. Non. C'est un système qui crée de la liquidité quand on était soi-disant en train
de serrer. L'injection d'argent.
On avait injecté. On était monté à 2,5 trillions de dollars en 2021-2022. On est aujourd'hui en train de descendre à 500 milliards et on va être à zéro en mai.
D'accord.
Donc ça, ça m'inquiète. Donc parce que je veux savoir ce qui va se passer quand ça va se passer.
Deuxième sujet d'inquiétude.
Deuxième, l'impact de la liquidité en moins sur l'économie, dans la vraie vie. Aujourd'hui, par exemple, en France, c'est 11% du PIB qui est lié à l'immobilier. Qu'est-ce qui va se passer avec le ralentissement immobilier et l'impact sur l'économie? Je ne sais pas.
Deuxième sujet. Troisième sujet,
c'est les indicateurs techniques.
D'accord.
Si vous regardez les...
Il y a
des gens quand même, ça les intéresse, oui. Si vous regardez les actionnaires internes dans les entreprises, donc les managers, ils sont vendeurs de leur propre entreprise. Ça, c'est pas super bon en général. Si vous voyez les trucs de l'intérieur et que vous vendez, c'est que il y a quelque chose que vous voyez qui vous semble pas super bien.
Il y a un 4 ou pas ?
Et après, non. Je suis toujours sur le troisième point, sur la technique. Donc effectivement, il y a des facteurs qui sont un petit peu inquiétants. Et on n'a pas parlé, donc effectivement, du côté technique, de la valorisation. La valorisation, on est aujourd'hui en prix par rapport aux ventes aux États-Unis, 16% au-dessus du niveau de 2000.
Je peux vous arrêter une seconde
C'est tout.
On aurait pu dire la même chose il y a deux mois.
On aurait pu dire, mais oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je dis. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, il faut avoir. Mais l'avalanche, c'est là où je parlais de l'avalanche. Est-ce que vous savez, sinon, même quand je prends un guide, il ne sait pas s'il va y avoir. Et pourtant, la montagne, il est dedans tous les jours.
D'accord.
Il ne sait pas. Parce qu'il suffit
donc
d'une
vous nous
petite
dites de continuer
boule de neige en plus.
Non, mais si je prends, parce que moi, je ne fais pas de ski, je déteste.
Mais il faut prendre son sac à dos, je sais.
Mais il faut quand même y aller.
Il faut aller
sur la bourse.
Vous pouvez y aller, mais prenez le sac à dos et voilà.
Et faites attention. C'est quoi un sac à dos boursier?
Ben voilà, donc on va en c'est parler quoi, tout à l'heure. Okay. Mais par exemple, on va parler de l'or, mais
ouais.
Ça me semble
intéressant. Ouais, alors pour une fois, je ne suis pas inquiète. Ça me ressemble
pas.
Ah
oui, ça vous semble.
Alors, je suis pas inquiète parce qu'en fait, il y a eu une période de publication de résultats et des marchés qui, je trouve, pour la première fois depuis des années, sont enfin rationnels par rapport à la réalité de la micro et des fondamentaux des entreprises. Ah oui. Avec une vraie, vraie distinction au sein des secteurs et au sein même de la cote entre des entreprises avec très peu de visibilité, des vraies pressions sur les marges, des vraies ruptures technologiques difficiles à mettre en place, qui souffrent et qui continuent de souffrir et qui nous disent dans les 18 prochains mois il va rien se passer. Et ces entreprises-là, ce sont celles qui ont souffert. Et de l'autre côté, des entreprises qui publient d'excellents résultats.
Mais Céline vous dit même celles-là, elles sont
très
chères.
Non, je suis pas d'accord. Alors non, je dis pas que Céline ment, bien évidemment, mais je trouve que leur valorisation
si
est assez.
Non,
bien sûr que non. On est entre femmes, on se soutient pour une fois, donc personne ment, on est toutes d'accord. Non. Vraiment, je trouve que la valorisation des entreprises qui ont bien monté sur les, on va dire, 2 mois et demi maintenant de bourse sont tout à fait corrélées à leur perspective de croissance dans les 18
c'est
mois.
C'est pas du tout ce que vous dites, hein, Céline, hein? Non, je veux pas,
je disais juste d'un point de vue technique. Il y a 60% des acteurs qui sont aujourd'hui haussiers sur le marché.
Sûr.
Je dois revenir en 2007 pour avoir la même chose.
C'est sûr.
J'ai un sentiment, il y a 2 mois, il n'était pas aussi euphorique.
D'un point de vue purement technique, je suis d'accord, il faut toujours être vigilant quand on a eu des hausses comme ça. Mais néanmoins, enfin, le marché est rationnel. Et en plus, il a bien intégré le fait que cette baisse des taux qu'on attendait tous va peut-être pas arriver si vite, voire pas du tout cette année. Donc,
la baisse des taux par les banques centrales, c'est en juin.
C'est pas mon point de vue. C'est pour ça que j'anticipe un petit peu le sujet. C'est pas mon point de vue.
Mais c'est intéressant. Vous dites pas de baisse des taux aux États-Unis en Europe en juin ou en juillet. On s'en fout, à 2 mois près.
Oui, absolument. Moi, je pense que 2024 va être une année blanche, mais je le dis depuis l'année dernière.
Persuadé qu'on aura des baisses des taux à partir de juin. Anna, vous dites non.
Moi, je suis persuadé que ce sera autour d'octobre. Enfin, par là, il a fait d'en premier. Pour éviter l'effet taux de change de la zone euro.
Moi, je crois que ce n'est pas très important ce qu'on pense sur le plateau et ce que pensent les économistes. Ce qui est important, c'est ce que pensent les investisseurs. Et pour le moment, que ça va être en juin.
Mais vous pensez quoi? Moi, ça ne m'intéresse que
vous pensez. Oui, mais nous, on a tendance à dire, manifestement, les banques centrales n'ont pas envie de précipiter le mouvement, mais elles ont l'air de trouver que juin, ça peut être une bonne idée pour
qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne sera pas en juin?
Eh bien, le fait qu'on repousse depuis déjà quasiment 9 mois.
Mais vous voyez bien que ça se dégrade quand même.
Pas trop aux États-Unis. Alors, je pense que si on pouvait avoir effectivement une différence entre l'Europe et les États-Unis, l'Europe aurait tendance à devoir le faire plus rapidement, mais je pense malheureusement qu'ils ne vont pas foutronner la Fed et que pour l'instant, aux États-Unis, il y a quand même régulièrement des pics de très bons chiffres.
C'est vrai. Anna?
Les prix immobiliers aux États-Unis sont en train de remonter. Or, ils pèsent pour 40%, 38% exactement de l'indice d'inflation, donc déjà. Alors que la Fed, elle a bien dit, est data-driven. Et de deuxième point très important...
Data-driven, c'est-à-dire que la Fed, elle suit les données.
Exactement. Or, pour la BCE, les comptes consolidés, toutes les données, on les aura qu'en juin. Donc le temps qu'ils prennent leurs décisions, leurs vacances d'été et tout ça. Et de deux, une question de crédibilité. Là, Christine Lagarde, on voit depuis le début de son mandat, qu'est-ce qu'elle défend avant tout? C'est la crédibilité de la Banque centrale.
C'est-à-dire, elle a du mal,
pourquoi on existe
on se pose la question parfois, nous aussi. Nathalie, qu'est-ce que vous dites à vos clients sur la bourse? Vous leur dites continuez, allez faire du ski, mais prenez un sac pour les avalanches?
Moi, je vais à la mer. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le regain d'intérêt pour les fondamentaux des entreprises. Alors, si on prend les marchés, et alors un petit mot un peu technique, mais très peu, la corrélation, c'est-à-dire que le rallye de fin d'année, tout montait, les actions, les obligations.
Tout à fait.
Février, les obligations ont baissé, les taux ont remonté, donc le cours des obligations a baissé, alors que les actions
ont continué
à monter.
Mais depuis une semaine, tout
monte. Depuis une semaine, tout monte. Mais on a malgré tout, donc si on regarde des points un peu éloignés, on a malgré tout une décorrélation. Ce qui veut dire que les marchés ont une approche plus saine. Parce que quand tout est corrélé, effectivement, on regarde la Fed, on espère une baisse des taux, on se dit super, ça va arriver.
Exubérances rationnelles, une exubérance irrationnelle et...
Et si je puis me permettre juste...
Que vous pouvez vous permettre, rapidement.
C'est que quand même, warning, c'est-à-dire qu'il va y avoir 40% de la dette mondiale et donc 30% des obligations, notamment d'entreprises, qui vont arriver à échéance dans les 3 prochaines années. Donc, en fait, tout va dépendre pour obtenir de la liquidité et qu'on, voilà, maintenir justement la bourse et les marchés au fond.
Exubérance rationnelle ou irrationnelle, vous devez répondre. Non, si, il n'y a pas de ni l'une ni l'autre. C'est rationnel ou irrationnel ?
Pas d'exubérance.
Carrément pas d'exubérance.
Ni rationnel, ni d'exubérance.
Ah, même pas d'exubérance, ok. Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine. Et j'avais envie de vous poser la question. C'était assez intéressant cette semaine de voir en fait à la fois l'or monter, à la fois le bitcoin monter. On voit très bien qu'il y a deux camps et que c'est très rigolo parce que c'est... Nous, on a fait une enquête notamment auprès de pas mal de gens et c'est vrai qu'on avait vraiment un fossé générationnel. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'or pour les seniors et le bitcoin pour les Gen Z et une partie des millennials. Céline, c'est or, vous êtes or ou bitcoin?
Moi, je suis vieille, je suis or.
Oui, ouais. Ça pourquoi va
être... Je suis or. Mais je suis or parce que l'or, déjà, c'est... Là, c'est ça, c'est tangible. Ouais. C'est-à-dire mais, que voilà. Donc, les... si demain, j'ai une guerre, j'ai une catastrophe, ben, je pars avec ça. Ouais. Si demain il y a une guerre, le monde s'arrête, est-ce que mon truc digital je vais le récupérer? Je sais pas. Okay. En tous les cas, je l'aurai pas autour du cou.
Okay,
donc ça, vous... déjà, pour moi, c'est un fondamental parce que l'or, c'est quelque chose que vous avez quand vous pensez qu'il va y avoir vraiment quelque chose de surprenant et une crise. Le bitcoin, c'est pour jouer. C'est pour penser que la liquidité
c'est
va continuer à augmenter.
C'est pas du tout ce que disent les défenseurs.
Tout à fait. Mais quand on regarde le comportement du bitcoin par rapport au comportement de l'or, ils n'ont pas eu le même comportement depuis 2020, notamment dans les moments de tension géopolitique et économique. Et quand on a eu de l'inflation, par exemple, l'or s'est bien comporté, pas forcément le bitcoin.
Donc vous êtes or.
Et quand on a eu, voilà. Et donc moi, je suis plutôt dans le camp or. Et je pense que fondamentalement, il y a d'autres sources. Parce que voilà, les bijoux, c'est 50% de la demande d'or.
Surtout
et
en Inde.
60, voilà, et 65% de la classe moyenne mondiale, on parlait tout à l'heure des vieux, mais il y a des jeunes aussi ailleurs. Hein, et c'est 65% de la demande. Et
surtout les banques centrales.
Il sera en Asie. Et en Asie, quand ils se marient, quand ils ont des événements à fêter, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'or.
Parce et que surtout eux, les achats par les banques centrales.
Et 25% les banques centrales. Et effectivement, la banque centrale chinoise, par exemple, elle est passée de 1% à 4% d'or. Et ça, ça fait une demande très importante.
Les briques.
Léa, or ou
bitcoin? Ah, bah, j'ai rien à rajouter, je suis complètement d'accord. Donc c'est l'or, c'est évident. En plus,
pourquoi vous n'avez pas mon âge, hein?
Ah non, mais moi je comprends rien au bitcoin. Je trouve ça absolument immatériel et je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Pour moi,
mais
ça,
on va
ça
vous
n'est
traiter
pas une valeur.
On me traite de ringard et on me dit, mais et j'entends, Amaury nous avait fait un petit point sur le bitcoin. Ouais, pour lui, c'est un actif comme un autre. Hein. En plus, il y a du mining, en plus, il y a le stock, le halving, le stock qui va se réduire. Bon.
Ça a été très bien dit, dans les périodes compliquées, ça ne se comporte pas quand même comme un actif de résilient. Hein. Non.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme placement à mettre dans son sac à dos?
Alors, donc,
pour les avalanches.
Quand on joue,
donc on a de l'or déjà, c'est vachement pratique pour skier.
Ce qui est mieux, c'est les mines d'or. Okay. Voilà. Parce que entre 2000 et 2010, l'or a fait x7, mais les minières x18.
Okay.
Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez des mines d'or qui sont à moins 10, moins 12 depuis le début de l'année, alors que l'or a monté. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc si j'avais une occasion, enfin voilà, si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, regardez les mines d'or. À mon avis, c'est très très intéressant à regarder. Autre élément que vous pouvez prendre dans votre sac à dos, c'est des valeurs qui sont liées à l'énergie. Parce que pareil, aujourd'hui, elles valent rien. Une valeur comme Total, on doit avoir un coupon de 7% et on a peu de... Enfin, on va continuer à consommer l'énergie, notamment à cause de l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc ça me semble être une bonne idée. Donc l'énergie, les métaux avec les minières... Troisième jeu, je sais que personne n'aime, mais quand même, les émergents, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça a tendance
s'il y a une crise, comme vous l'avez décrit, avec des taux qui restent élevés.
Quand on a une avalanche, on peut avoir, quand on regarde ce qui se passe en 2000, on a une décorrélation entre le marché américain et le marché chinois, notamment. Et le marché chinois qui avait monté. Voilà.
Allez, je vous en
parle. Donc je dis, je n'ai pas à la fin.
Bon, alors nous, on ne s'est pas concernés, mais les métaux aussi. On vient d'ailleurs de sortir une nouvelle stratégie sur les métaux, finalement, stratégiques pour la transition. Moi, je suis convaincue, et à titre personnel, mais aussi d'un point de vue boursier, d'abord que c'est des marchés qui vont se réguler de plus en plus, donc sur lesquels il y aura une transparence intéressante, y compris sur la traçabilité, ça c'est important, mais surtout qu'en fait, la demande va ne faire que s'accélérer, que les ressources restent limitées. Et donc, nous, on lance cette stratégie-là pour diversifier et pas être que sur l'or, justement. Il y en a tout un tas des actifs, des métaux stratégiques et finalement, aujourd'hui, très, très peu regardés par les investisseurs. Donc ça, c'est, ça m'intéresse. Côté boursier pur, je dirais quand même à nouveau les small et mid cap parce qu'elles ont repris... Mais et pourquoi ?
Non, mais
parce que précisément
mais
le marché...
Moi aussi, j'adore ça, mais oui. Ça fait trois ans que toutes les semaines, il y a un gérant qui dit, après cinq ans, après trois ans de décorrélation, après 4 ans.
Mais la vraie question, Marc, c'est pourquoi elles prennent encore un plomb comme ça, parce que justement, on pense que les taux vont pas baisser. Elles sont tellement corrélées à la baisse des taux, ces petites sociétés. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Ça peut être l'occasion d'y rentrer un tout petit peu. Et puis, je vais faire l'autre pan de l'énergie sur la partie sectorielle, c'est les énergies renouvelables, parce qu'elles sont encore plus dans la panade.
Mais un champion des énergies renouvelables à terme, ça va être Total, non ?
C'est possible. C'est même c'est la voie qu'ils prennent.
Voilà.
Mais il y a plein
donc,
de champs.
Au lieu de bannir des fonds, il vaudrait mieux le mettre et pousser vers la transition.
Je vais quand même répondre à ce point-là. C'est important, Marc. Pour que Total devienne un champion des énergies renouvelables, il faut qu'ils achètent les leaders et les pure players des énergies renouvelables qui sont actuellement cotés en bourse.
Mais ils sont en train d'investir quand même.
Ils font les deux. Ils font de la acquisition. Donc achetons les énergies renouvelables en bourse qui sont pas chères et qui se feront racheter par Total demain. La boucle est
bouclée. Allez, on passe au top ou au flop de la semaine avec vous, Nathalie. C'est quoi le top de la semaine pour vous ?
Eh bien, top à l'euro. Alors c'est un petit top parce que c'est fragile le marché des changes, mais malgré tout, l'euro a progressé. Depuis la mi-février, il a pris un peu plus de 2%. Il a progressé hier malgré les perspectives de baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, on se dit que c'est une...
C'est vrai qu'on lui tape tellement dessus, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il nous apporte. Hein. Je le répète souvent, si on n'avait pas l'euro, nos taux d'intérêt en France, tous les gens qui gueulent, j'ai envie de leur dire, mais qui gueulent sur l'Europe, qui gueulent sur l'euro, je leur dis, est-ce que vous seriez content avec des taux d'intérêt à 14% et des dévaluations tous les 6 mois? Je pense qu'il ferait la gueule. Donc,
et il est sous-évalué pour l'Allemagne.
Et c'est tant mieux pour nous. Léa, le top ou le flop pour vous ?
Top à la Commission européenne, enfin à l'Europe court, si. Non, mais alors pour des raisons, je suis sûre qu'ils vont vous plaire. Ah. Et ça concerne notamment la BEI et ça concerne surtout le contexte géopolitique avec en fait aucun plan de financement de l'armement et la défense à horizon 10-15 ans. Encore des dépenses, vous me direz, vu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Néanmoins, l'idée émerge de proposer des bonds qui seraient des security bonds, par exemple, et de mettre un gros coup de booster sur une politique budgétaire de soutien à ce secteur en particulier. Je pense que ça fait écho aussi avec l'arrivée de Trump potentiellement qui fait peur à tout le monde.
Mais vous, finance responsable, ça vous...
Eh ben alors figurez-vous qu'en plus, la BEI réfléchirait même à faire rentrer dans la taxonomie l'armement, la défense. Et là, je ne vais pas faire technique maintenant, mais entre
alors
les
là,
armes
vous m'avez scotché,
et la défense, déjà, il y a deux sujets différents. La défense, c'est beaucoup de choses. C'est la sécurité aux frontières, c'est la cybersécurité.
On joue sur les mots, d'accord.
Non, parce que justement, je pense que là sera défini au sein d'une taxonomie les différents pans de l'armement défense.
Si même vous conseillez d'aller sur la défense et l'armement.
En tout cas, le plan européen est intéressant.
Céline, le top ou flop de la semaine ?
Alors, mon top, c'est les chiffres du commerce extérieur chinois.
Ah oui ?
On n'en a pas beaucoup parlé.
Si, on en a un peu parlé,
mais
allez-y.
Plus 7,1% pour les exportations, non,
ils viennent
plus 3,5% sur les importations
bien ramassé,
sur janvier-février.
Ouais.
Non mais on attendait 1,9 et 1,5. 7 et 1, c'est pas pareil. Donc voilà, j'ai juste non mais comme on parle toujours des mauvaises nouvelles sur la Chine et j'en sais quelque chose, je voulais quand même montrer qu'il y a parfois des trucs bien et le Hang Seng Index a fait plus 12% depuis fin janvier, le Nasdaq plus 5. Donc voilà, si on veut regarder les choses différemment, il se passe quelque chose de différent. Mais ça avait beaucoup baissé avant, je suis
d'accord. Bah voilà, c'est ça. Anna, le top ou le flop de la semaine
pour
vous ?
Alors moi, c'est un top qui est fait de deux tops, en fait, hein, toujours au niveau de l'Union européenne, qui a lancé en début de semaine un nouvel appel à projet de 1 000 milliards d'euros pour donc construire des infrastructures décarbonées, notamment des stations de ravitaillement, hydrogène, voitures électriques, etc. Donc qui va permettre d'accélérer effectivement l'effet de ruissellement et également la scalabilité, la mise à l'échelle de toutes les innovations liées justement à la mobilité,
propre
et tout ça. Et toujours en lien avec ça, pour alimenter quoi ? Notamment pour alimenter le futur nouvel espace unifié européen. Il y a enfin eu un accord qui doit être finalisé, mais quand même un accord en début de semaine, sur un ciel unique européen. Donc, qui permettrait beaucoup plus de productivité, si je puis dire, du trafic aérien européen. Et donc, de booster également de booster également notre économie à ce niveau-là.
Donc deux tops pour vous, Anna. Et on passe tout de suite au top 3. Et une révolution. Révolution, bah oui, cherchez pas son nom, pourtant c'était son nom qui était au top depuis 18 mois, c'était Virginie Robert qui sort juste cette semaine, hein. Elle va probablement rentrer du top 3, Pascal, on la salue d'ailleurs, Pascal Sévy 12,6% en tête du classement, Alain Pitou 10,6%, Pierre Chang 7,6%, est-ce qu'on peut m'envoyer un jingle qui fait peur, Léa?
Ouais.
La France vous regarde. Je vais vous donner votre portefeuille.
Oui.
Vous allez me dire si vous achetez ou vous vendez. Et ensuite, vous me ferez votre recommandation du jour. Alors, Dassault Systèmes.
On garde.
Idée Logistics.
On garde.
Rational.
On garde.
Assystème.
On garde.
Novo Nordisk.
On garde.
Pas mal ça.
Ah ouais. Mais avec tout ce qu'on a dit là, je comprends pas qu'ils sont pas dans le top 3.
Ah ouais, mais c'est incroyable. Ce truc est dingue. Ils ont expliqué que ça allait rajouter 1,1 point au PIB du Danemark.
Comme Taylor Swift aux États-Unis.
C'est plus Biomérieux.
Ouais, on garde aussi.
EDPR.
On garde.
Ouais. Iberdrola.
On garde.
Lonza.
On garde.
Essilor Luxottica.
On garde.
Bureau Veritas.
On garde.
Geberit.
On garde.
Givaudan.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
Eh ben, on en achète qu'une, puisqu'on n'a rien sorti. On va acheter SPI, alors qui a fait déjà un beau parcours, société française en ingénierie, qui accompagne les entreprises, notamment des entreprises dans l'énergie, mais sur tout un tas de sujets, qui justement bénéficient de son expertise depuis toujours. Ça se voit dans leurs résultats, qui a un pipe d'accompagnement, parce qu'en fait, c'est essentiellement des sujets de maintenance industrielle, de problématiques de ce type-là, et y compris climatique, c'est-à-dire en fait des carnets de commandes qui ne font que se remplir. Et puis ça permet d'aller un petit peu sur d'autres thèmes que les classiques de la santé, des ingrédients qu'on vient de voir ou de la tech.
Voilà. Et dans la liste que vous aviez, vous êtes confortable avec tous les titres?
Je suis confortable avec tout sauf EDPR qui nous a publié des résultats assez mauvais et de même que à peu près toute l'industrie des énergies renouvelables va souffrir encore un bon 18 mois. Je pourrais presque rajouter Plastic Omnium, tiens d'ailleurs, parce que là je pense qu'on...
Très belle boîte.
On va la rajouter, tiens d'ailleurs.
Elle s'est faite massacrer et injustement.
Ouais, absolument. Donc on va rajouter maintenant Plastic Omnium.
Surtout qu'il faut saluer Plastic Omnium à une politique pour les actionnaires individuels qui est absolument remarquable.
Absolument.
Remarquable, c'est un cas d'école.
Hein. Oui, tout
vraiment,
à fait.
C'est un truc très étonnant. J'ai découvert ça cette semaine et j'ai trouvé ça absolument incroyable.
Ouais, je pense qu'on peut effectivement saluer la constance et un management exceptionnel, une famille exceptionnelle d'ailleurs. Donc voilà. Donc à part les énergies renouvelables et EDPR qu'on conserve, parce qu'on ne vend pas évidemment quand c'est tout en bas, tout le reste, honnêtement, a très bien publié, et en particulier la santé des ingrédients, c'est la fin du cycle post-Covid.
Est-ce que vous pouvez me renvoyer le jingle qui fait peur? Céline, la France vous regarde.
Parfait.
Je lis votre portefeuille. Merck.
Je garde.
Barrick Gold. Bon, là, vous êtes cohérente avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une mine d'or. Michelin.
Je garde.
AIA Group.
Je garde.
Shangdon Weigao.
Je garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
Total. Voilà. Je viens d'en parler.
Allez-y. Alors, expliquez-nous.
Exactement, vous l'avez très bien expliqué. C'est les meilleurs pour jouer le renouvelable.
Pourquoi?
Non, c'est vrai qu'ils ont 20% de leur mix qui sera du renouvelable en 2030. Après, ils ont une grosse partie qui sera le gaz, 50%. Et sur ces deux parties, le gaz, le renouvelable, ça va répondre à la demande d'énergie qu'on va avoir demain, sachant qu'aujourd'hui, 30% de l'énergie consommée dans le monde est produite à partir de charbon. Donc, déjà, il faut qu'on sorte de ces 30%-là et qu'on fasse autre chose. Et quand on fait autre chose, on passe par ce qu'on peut trouver.
On passe par la case gaz.
Et dans un premier temps, c'est plus facile de faire du gaz, parce que pour l'instant, on ne peut pas répondre à 30% de la consommation électrique, d'énergie mondiale, par du renouvelable. Ça se saurait. Donc, on passe par du gaz. Et donc, ils ont un mix qui, à mon sens, est très bien positionné pour demain.
Alors, pourquoi ils n'achètent pas des leaders de l'énergie renouvelable?
Parce qu'en fait, ils ont un retour sur investissement. Parce qu'ils ont un retour sur investissement eux-mêmes sur la partie renouvelable qui est très élevée. C'est-à-dire qu'ils ont un retour sur investissement qui est à deux chiffres, notamment parce que...
Vous voulez dire qu'ils font mieux que des pure players?
Ils font très bien. Oui, ils font très bien parce qu'en fait, ils maîtrisent la distribution d'énergie, ils maîtrisent le trading d'énergie
et ils maîtrisent le
mais moi,
la relation
suis persuadé,
avec
je
les
me
pays.
Dis qu'en fait les c'est
et
comme
donc
on a
ils
vu.
Ont un avantage énorme. Voilà. C'est au départ j'avais
on
regardé.
On a eu ce truc un peu sur le digital à un moment. Regardez, donc, on disait un publiciste, c'est un truc qui va mourir parce qu'il y a les agences digitales et finalement ils ont été secoués et puis les leaders du digital.
Ils ont fait beaucoup de corporate venture.
Bah oui. Mais les leaders du digital aujourd'hui, c'est des boîtes comme
les moyens de faire beaucoup de corporate venture.
Ils ont des poches profondes parce qu'en plus ils ont une vache à lait.
Comment vous faites les poches profondes?
Ouais, les poches là.
Les gens qui voient pas, elle est en train de.
Non mais je dis voilà, c'est comme dans nos cours d'économie quand on est à l'école, on nous explique qu'il faut avoir des vaches à lait. Ben eux, ils ont une vache à lait parce qu'ils ont la partie pétrole, ils ont pas besoin d'investir dessus.
Si le cours du pétrole baissait du fait
donc,
de la.
Du coup, voilà. Donc,
si le cours du pétrole baissait lourdement du fait d'un ralentissement de l'économie mondiale, est-ce que ça toucherait? C'est quoi la corrélation entre l'action et le pétrole?
Je pense que il y a une corrélation, c'est sûr, hein, sur le court terme. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, il va falloir comprendre pourquoi est-ce que on a une baisse. Est-ce que c'est parce que on est remplacé? L'année dernière, on nous avait dit déjà qu'il n'y aurait plus de consommation de pétrole et on a eu une augmentation de la consommation de pétrole. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué à envisager. Et je rappelle juste que, pareil, on n'est que
13%. C'est Madame Plus, elle dit un truc et puis elle reprend encore une minute.
On est 13% de la population mondiale qui sera en Europe et aux États-Unis. Parce qu'on parlait
là, ça va se terminer l'émission.
Et la population, elle est très majoritairement en dehors de chez nous. Et eux aussi, ils ont le droit d'avoir de l'énergie et l'électricité.
Bon, est-ce que ça, vous pensez que c'était une bonne expérience et qu'il faut refaire un plateau entièrement
c'est formidable.
C'est formidable. Bien, ouais. C'est nettement mieux que quand c'est, il y a.
Incomparable.
Incomparable. Allez, oui, c'est bon, vous avez entendu hein, tous ceux qui participent à l'émission habituellement. Merci à toutes nos invités EES de Marc. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission donc, qui sera un peu plus masculine, désolé. Mais elle sera quand même exceptionnelle. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous revoir et nous réécouter en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Et on est à nouveau en très très forte progression.